Je remercie Brigitte. Ça sera mieux là. Oui. Je remercie Brigitte pour cet exposé passionnant. Enfin, j'ai trouvé passionnant. Et je passe tout de suite la parole à Patrick Barillo pour donc son exposé analysant hors analyse. Merci. C'est celui-là.
Oui, donc ce soir, je m'attache à explorer ce thème de l'analysant hors analyse. Bon, nous savons tous le succès qu'a connu le terme de psychanalysant promu par Lacan en substitution à celui de psychanalysé dans le monde psychanalytique, y compris non lacanien. Psychanalysant est donc devenu le signifiant propre à désigner celui qui est en analyse, se soumet à la tâche analysante dans le cadre du dispositif analytique où se forme le couple psychanalysant-psychanalyste. Alors, la notion d'un possible analysant hors analyse, c'est-à-dire de la position analysante telle qu'elle est définie dans la cure, mais hors la cure, n'a pas du tout connu le même succès. Cette idée proprement lacanienne, au sens qu'elle nous vient de Lacan lui-même, ne me semble pas du tout ni abordée, ni encore moins réfléchie chez les analystes non lacaniens. Et même parmi ceux qui se réfèrent à Lacan, cette notion n'apparaît pas très explorée au regard d'une recherche rapide sur le sujet. Nous pourrions même nous demander s'il existe de l'analysant hors analyse, si cela a un sens. C'est pour cette raison que mon titre ne comporte pas d'article défini. Je n'ai pas écrit l'analysant hors analyse. Ça laisse un petit peu de doute sur la réalité de cette possibilité. Cependant, si nous pouvons penser l'existence de l'analysant hors l'analyse, c'est bien parce que Lacan s'est défini lui-même comme tel. Alors, nous en trouvons plusieurs occurrences. Et à chaque fois qu'il se dit et qu'il se définit en position d'analysant, c'est toujours en rapport avec son enseignement. J'y viendrai. Avant de développer cette question, cet aspect de la question propre à la position analysante dans l'enseignement, je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres possibilités, d'autres occurrences où nous pourrions trouver de l'analysant en dehors du dispositif de la cure. Eh bien, il me semble que le dispositif de la passe y répond positivement en permettant à celui qui s'y prête de se retrouver en position d'analysant. Alors, à ce sujet, une question m'est venue. Est-ce l'analysé qui est attendu dans la passe? Alors, le terme d'analysé est un terme qu'on pourrait qualifier d'assez impropre, puisqu'il a été substitué, mais qui voudrait mieux parler de l'analysant en passe d'être analyste. Mais si je l'utilise, c'est pour des raisons, pour indiquer une temporalité dans la cure. Parce que certainement qu'on attend l'analyser, puisqu'on ne fait pas la passe en début d'analyse. Mais disons, c'est l'analyser en tant qu'il se fait analysant. Mais analysant de quoi ? Pas de ses symptômes, ni de son plus de jouir. Ça, il l'a déjà fait dans sa cure, et il vient en témoigner. Si on peut le dire analysant, c'est en tant qu'analysant de sa propre analyse. De son analyse, il a acquis des bribes de savoir, et aussi fait l'expérience d'un savoir inconscient qui échappe à la vérité. De sa cure, il doit tirer des conséquences, élaborer un autre savoir sur son analyse, aboutir à une structuration plus analytique de l'expérience, comme le dit Lacan dans son discours à l'EFP, qu'il va transmettre au passeur pour le cartel. Donc, situer le passant en place d'analysant sous-entend que dans le dispositif de la passe, il est dans le discours analytique hors de son analyse. Tous les candidats à la passe n'y répondent pas. mais je crois qu'il s'agit là d'une condition nécessaire à une nomination comme analyste de l'école. De s'apparoler au discours analytique comme analysant dans la passe implique de se situer à la même place que celle de l'analysant dans la cure. Dans le discours analytique, cette place se situe à la ligne supérieure du discours en face de A comme sujet divisé. Alors je vais l'écrire parce que tout le monde n'a pas forcément en tête le discours analytique. Donc ça, ça situe, le discours analytique, et ça situe la place de l'objet, la place du sujet, donc comme analysant. Ça signifie que ce n'est pas en tant qu'analyste que l'on vient témoigner dans la passe, et c'est bien pourquoi, à son origine, elle était ouverte à des non-analystes, à des non-analystes. Le dispositif, la passe, est toujours ouverte à des non-analystes, mais notre expérience montre que ceux qui s'y soumettent sont très souvent des praticiens d'analyse ou en passe de l'être. Donc, le dispositif de la passe est un moyen de sélection, de garantie apportée par l'école, soutenue par le discours analytique. On pourrait s'imaginer que dans une école de psychanalyse constituée d'un grand nombre d'analystes, il suffirait de parler pour être dans le discours analytique, et que l'école elle-même serait tout entière régie par le discours analytique. Il n'en est rien, et je crois que ce dispositif, en tout cas sa création, avait pour finalité de faire exister dans l'école de Lacan le discours analytique en opposition au discours du maître, qui, comme il le dit, régissait les sociétés analytiques. Faire exister donc le discours analytique pour la garantie, mais aussi pour les avancées épistémiques, puisqu'il est attendu que le nommé analyste de l'école contribue à l'avancement de la psychanalyse. Après sa nomination, l'AE n'en a donc pas fini avec cette position analysante. Donc cette position analysante, si on en suit la thèse de Lacan qui est contenue dans l'exergue à l'argument de mon exposé, est la seule compatible avec un enseignement de psychanalyse. Donc je vous... Voilà le petit exergue que j'avais mis en tête de mon argument. Ça se trouve dans l'allocution prononcée pour la clôture du congrès de l'École freudienne de Paris en 70. Il dit « Ce qu'il me faut bien accentuer, c'est qu'à s'offrir à l'enseignement, le discours psychanalytique amène le psychanalyste à la position du psychanalysant, c'est-à-dire à ne produire rien de maîtrisable, malgré l'apparence, sinon au titre de symptôme. » Alors, ce texte a été publié donc en 70 dans Silly 7, numéro 2-3. Il se trouve aussi dans les autres écrits. Alors cette proposition sera, je vais faire de cette proposition le point pivot de mon exposé. J'imagine qu'elle produit chez vous la même perplexité que celle qui fut la mienne à sa première lecture et aux suivantes d'ailleurs. Je me suis donc mis en tête d'essayer d'en élucider la portée. La première partie est assez simple. Elle met en relation les trois termes que sont l'enseignement, le discours analytique et le psychanalysant, puisqu'il nous dit que le psychanalyste qui s'offre à l'enseignement est amené... Donc, je disais donc que nous avons trois termes qui sont mis en relation. l'enseignement, le discours analytique et le psychanalysant. Puisque il nous dit que le psychanalyste qui s'offre à l'enseignement est amené par le discours analytique en position d'analysant. Donc, enseigner la psychanalyse tout en restant dans le discours analytique implique un renversement de position pour le psychanalyste qui doit passer à la position analysante. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas en position d'analyste. Ce renversement de position trouve sa justification dans le fait que la position analysante relève de la logique signifiante, alors que celle de l'analyste relève de la logique de l'acte, qui n'est pas la même, puisque c'est une logique d'après-coup. Et comme dans son acte, l'analyste ne pense pas, notre thèse, il lui est nécessaire de passer à la position analysante s'il veut penser sa pratique. La posture de l'enseignant silencieux fonctionnant comme analyste a existé. Je l'ai rencontré, je ne sais pas si vous-même avez rencontré ces figures. Je pense que maintenant ce n'est plus le cas. C'est une posture qui a disparu, mais elle a eu son existence à un certain moment. Donc, après avoir posé cette thèse générale en 1970, Lacan, parlant du rapport à son enseignement, s'est donc à plusieurs reprises défini lui-même comme occupant cette position d'analysant. Je vais vous donner quelques références. Là, on peut trouver cette définition de Lacan se disant lui-même analysant dans le cadre de son enseignement. On en trouve une première donc dans la première leçon d'Encore, en 1972, donc c'est 2 ans après, où il se dit ne pouvoir être, à l'égard de son auditoire, qu'en position d'analysant. Alors là, il précise, d'analysant de son « je n'en veux rien savoir », qui dit être à distinguer du « je n'en veux rien savoir » des analysants présents à son séminaire. Alors, je ne vais pas développer en quoi le « je n'en veux rien savoir » de Lacan se différencie de celui de l'analysant dans la cure, mais juste pour préciser quand même qu'il ne s'agissait pas de la même chose. Donc ça, c'est la première occurrence. Il y en a une autre qui se trouve dans Télévision, dans le texte liminaire. Alors là, il ne formule pas de façon explicite qu'il est en position d'analysant, mais en situant au nom de quoi il parle, aussi bien à la télévision qu'à son séminaire, il nous indique se positionner en place d'analysant. Il ne l'affirme pas ainsi, mais la logique du texte nous conduit à le déduire. J'y reviendrai. Donc nous avons deux occurrences de la voix analysante. Celle empruntée par celui qui en analyse et celle de celui qui s'offre à l'enseignement de la psychanalyse, à la transmission d'un certain savoir, qu'il soit analyste de l'école ou psychanalyste praticien. Bien qu'il y ait une homologie de la place analysante pour ces deux voies, il convient de s'interroger sur leurs différences et leurs points de similitude. Alors ceux qui empruntent ces deux voies ont en commun d'occuper la même place dans le discours analytique, soit celle que Lacan désigne de S barré. Pour l'enseignant, il nous dit que c'est là qu'il se trouve quand il y a de l'enseignant, et de préciser que ça n'implique pas qu'il y en ait toujours. C'est strictement homologue avec, j'ai trouvé que c'était strictement homologue avec ce qu'il peut dire sur le psychanalyste. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on est en fonction de pratiquer la psychanalyse qu'il y a du psychanalyste. Comme il ne suffit pas d'être en fonction d'enseigner la psychanalyse pour qu'il y ait de l'enseignant en tant qu'essence. Donc cette thèse se résume à poser que l'enseignant est toujours en place de S barré. Cependant, tout S barré n'est pas enseignant, mais c'est la condition pour enseigner. Donc dans ces deux situations, c'est la cause du désir, soit l'objet petit a, qui est l'agent du discours. C'est comme indiqué dans le schéma qui est au tableau. Donc l'objet petit a, agent du discours. Donc dans la cure analytique, nous savons que l'analyse se fait support de cet objet. Mais qu'en est-il dans le cas de l'enseignant? Quel est son objet à l'enseignant? Alors nous avons pour habitude de penser que s'agissant de Lacan, c'était le regard de Freud qui faisait fonction d'objet A. Alors j'ai cherché des références chez Lacan à ce sujet, où est-ce que ça se trouvait. Alors j'en ai trouvé une, j'en ai pas trouvé d'autres, peut-être qu'il y en a d'autres, mais si... En tout cas j'en ai trouvé une qui se trouve dans le séminaire d'un autre à l'autre, à la leçon du 8 janvier 1969, c'est une référence où il dit qu'à propos du couple qu'il forme avec Freud, il dit se situer sous son regard. Enfin, il ne développe pas plus. En revanche, sur cette question de ce qui fait fonction d'objet petit a dans son enseignement, il écrit des choses beaucoup plus précises dans Télévision. Pour lui, entre la télévision face à laquelle il parle et le public de son séminaire, il n'y a pas de différence en tant que les deux sont un regard auquel il ne s'adresse pas, mais l'objet au nom de quoi il parle. Ceux à qui il s'adresse sont les analystes, comme il le dit, supposé de son séminaire, et, précise-t-il, desquels il n'attend rien de plus que d'être cet objet petit a, grâce à quoi ce qu'il enseigne n'est pas une auto-analyse. Question. Comment peut-il faire équivaloir, dans cette fonction d'objet-cause, la présence de ses analystes à son séminaire, avec la télévision et derrière elle son public, qui n'entendra que dalle à son discours? Il apporte une réponse. La réponse, voilà comme je la lis. Que l'auditoire de la télévision n'y entende rien à son discours n'empêche pas qu'elle fonctionne comme objet petit a, de la même façon qu'un analyste qui, même à ne rien entendre à son discours, peut aussi fonctionner comme tel. La thèse se résume ainsi. Que ce soit à la télévision ou à son séminaire, ni rien entendre à ce qu'il enseigne n'empêche pas l'auditoire de fonctionner comme objet regard. Dans un petit paragraphe qui suit, il ajoute que les analystes qui n'y entendent rien à son discours et qui ne sont analystes que d'être objet de l'analysant, il arrive qu'ils s'adressent à eux. Non pas qu'ils leur parlent, mais qu'ils parlent d'eux, ne serait-ce que pour les troubler. Donc là, il distingue une catégorie d'analystes, comme il le dit, ceux qui ne le sont qu'au titre d'être objet de l'analysant. J'ai eu une interrogation, ouais, j'en ai eu plusieurs, mais là je vous en livre une. Quand il parle de l'analysant, puisque je me suis demandé de quel analysant s'agit-il. Entre les deux voies, entre celle qui est de l'analysant dans la cure et de l'analysant en tant qu'enseignant. Donc, je pense qu'il fait référence à l'analysant dans la cure, ça me semble évident. Mais je crois que ça ne serait pas trop de dire que Lacan s'inclut aussi dans cette catégorie de l'analysant. Puisqu'il nous parle de sa place d'enseignant en position d'analysant, en lien avec cet objet cause de son désir que sont tous les analystes supposés, présent à son séminaire, qu'ils entendent quelque chose ou pas à ce qu'il dit. Dire de certains les analystes, qui ne sont analystes qu'au titre d'objet pour leur analysant. Donc c'est valable aussi bien pour la cure que pour Lacan en fonction d'enseignant. Donc ils ne sont objet pour leur analysant, visent ce qui leur fait défaut, un savoir sur la psychanalyse. Alors cette critique s'adresse à une catégorie d'analystes dans leur rapport au savoir, c'est-à-dire ceux qui cultivent l'ignorance. C'est-à-dire ceux qui, enfin, c'est Lacan qui les vise. C'est-à-dire que ceux qui se contentent d'être des praticiens de la psychanalyse sans faire l'effort de penser leur pratique. Cependant, Lacan a toujours défendu l'idée qu'on pouvait opérer comme analyste sans savoir ce que l'on faisait. Alors ça laisse de l'espoir. Enfin, jusqu'à un certain point. C'est pour cette raison qu'il n'a jamais dénié aux membres de l'IPA leur qualité d'analyste. Cela eût été de toute façon difficile puisque lui-même eut pour analyste un membre de l'IPA. De ce qui précède m'a conduit à une réflexion sur la nécessité d'une adresse du discours pour que ce que Lacan enseignait ne soit pas, comme il le dit, une auto-analyse. Je dis cela en lien avec ce qui se dit de la fonction du regard de Freud. J'ai quand même dans l'idée que si Freud a pu jouer le rôle d'objet-cause, ce n'était pas suffisant à ce que Lacan produise son enseignement. Il y fallait aussi la présence d'analystes supposés à son séminaire ou la supposée présence d'analystes à l'entendre à la télévision. Parce que à son séminaire, bien que ne s'adressant pas au regard, il ne parlait pas à la cantonade, dit-il, mais à ceux qui s'y connaissaient, aux non-idiots, à des analystes supposés. S'adressant à la télévision, il y supposait aussi des analystes à l'entendre. Dire « je parle à ceux qui s'y connaissent » veut dire que je m'adresse à ceux qui disposent déjà d'un savoir sur la psychanalyse, puisqu'ici il s'agit de psychanalyste, d'analyste. Donc la structure de l'enseignement, telle qu'il me semble qu'elle apparaît ici, nécessite d'une part l'objet-cause, en substance le regard, et d'autre part un savoir supposé à ceux à qui on parle. Donc à lui seul, le regard de Freud ou des analystes présents à son séminaire n'était pas suffisant. Il fallait aussi pouvoir s'adresser à des sujets disposant d'un savoir. Disposer d'un savoir est même une condition pour que l'enseignant soit entendu. Ne disait-il pas que l'on ne peut être enseigné qu'à la mesure de son savoir ? Donc il m'est apparu que cette structure de l'enseignement est identique à celle de l'analysant dans la cure, puisque ce sont les analystes présents à son séminaire qui font office d'objet petit a, et qu'à certains, Lacan leur suppose un savoir. Il y a donc une identité à la ligne supérieure du discours analytique entre la position analysante dans la cure et celle qu'adopte celui qui s'offre à l'enseignement dans la psychanalyse. Tout cependant ne peut pas être identique. Et les différences, je les situe à la ligne inférieure du discours analytique. Une différence fondamentale entre les deux voies analysantes relève du savoir en jeu. Puisque dans la cure analytique, le savoir est déjà là. Il est chiffré. Et le travail analytique réside dans son déchiffrage. Déchiffrage qui ne sera jamais que partiel. Pas de dernier mot, pas de somme de savoir qui totaliserait tout le savoir de l'inconscient. Savoir son sujet, dit Lacan. Pour l'enseignant, tel que Lacan l'entend, il en va autrement. Le savoir à produire n'est pas déjà là. Il est à inventer. Vous voyez la différence entre un savoir qui est déjà là et un savoir dans un cadre, dans la cure analytique, et le savoir qui est inventé dans l'enseignement. Cependant, on objectera, on pourra facilement objecter que depuis le temps, depuis Freud, avec Lacan et à sa suite, un savoir s'est constitué et qu'on ne peut pas être toujours dans l'invention d'un savoir nouveau. Alors, c'est une question, le rapport dans l'enseignement entre le savoir constitué et celui qui est à inventer. Et pour essayer d'éclairer ce point, je vais m'appuyer sur un passage toujours de cette allocution sur l'enseignement, qui, je pense, pourra nous éclairer sur ce point particulier, même si la formulation de ce passage va vous sembler assez hermétique à une première lecture. Ce petit passage suit immédiatement l'affirmation que l'enseignant est en place de S-barré dans ce texte, dans cette allocution. Donc, d'être en place de S-barré, il continue, cela veut dire que l'enseignant se produit au niveau du sujet. Jusque-là, ça va. Tel que nous l'articulons du signifiant qui le représente pour un autre signifiant, virgule, qui sait lequel, point d'interrogation. Il suffisant que cet autre se sache pour que le sujet sorte du savoir à y rentrer, deux points, n'est-ce pas proprement le mouvement dont l'enseignant comme essence, se sustente. Donc le mouvement dont l'enseignant se sustente, c'est sortir du savoir à y rentrer. Ne perdons pas de vue que nous nous situons toujours dans le discours analytique. Dans l'analyse, l'analysant produit des S1. Des signifiants qui proviennent du déchiffrage de sa jouissance, qui constituent un savoir sur celle-ci. Ces signifiants produits le représentent pour un autre signifiant S2, ça, c'est la thèse classique, S2, savoir de l'inconscient mis en position de vérité. Mais entre les deux, entre ce S1 produit et ce savoir de l'inconscient, il y a une barrière. Pas moyen de rejoindre ce savoir inconscient dans sa totalité, d'où cette thèse du savoir inconscient comme savoir sans sujet. Donc à la question de qui sait lequel, hein, donc nous l'articulons le sujet du signifiant qui le représente pour un autre signifiant, virgule, qui sait lequel, dans ce cas du discours analytique et de la cure, donc à cette question de qui sait lequel, on y répond, nul sujet. Que cet autre se sache, il suffit, c'est-à-dire qu'il suffit que nous sachions qu'il y a du savoir inconscient, donc de la jouissance chiffrée, pour que le sujet dit entrer par le déchiffrage en sorte d'être représenté par S1. Donc sortir du savoir en y entrant est le propre de l'analysant dans la cure. L'étonnant est d'avancer que ce mouvement concerne tout autant l'enseignant. Comment l'entendre ? On peut y arriver, enfin c'est comme ça que j'ai essayé d'y entendre quelque chose, à situer le contexte de cette allocution sur l'enseignement, qui est un texte combatif, en tout cas dans une de ses parties, contre le discours universitaire, puisque Lacan considère que l'enseignement de la psychanalyse ne peut pas être identique à celui dispensé par l'université. Dans le discours universitaire, le savoir vient à la place de l'agent, et ce savoir déjà établi devient l'enseignement à dispenser. Donc c'est un enseignement qu'on peut dire, que je dirais déjà tout cuit et même recuit. La thèse sur le mouvement dont l'enseignant se sustente implique que l'enseignant, pour le dire autrement, donc, ne s'installe pas dans le savoir puisqu'il en sort à y rentrer. Autrement dit, l'analyste analysant n'enseigne pas dans le discours universitaire, dont le savoir est toujours par certains côtés savoir de maître. Cela ne signifie pas qu'il n'enseigne pas à l'université, puisque s'inscrire dans un discours n'est pas affaire de lieu. Donc toute la difficulté pour l'enseignant analysant est de maintenir une place au non-savoir, au sein du savoir, pour pouvoir produire un savoir nouveau à partir de son ignorance. Cela exclut donc pour l'enseignant la possibilité d'un tout-savoir d'une part, et d'autre part, la position de maîtrise à l'égard du savoir. Ayant précisé cela, je peux revenir à cette formule de Lacan que j'ai mise en exergue. Donc, je vous la rappelle, quand il disait « c'est à s'offrir à l'enseignement » c'est qu'à s'offrir à l'enseignement, le discours psychanalytique amène le psychanalyste à la position du psychanalysant, c'est-à-dire à ne produire rien de maîtrisable, malgré l'apparence, sinon au titre de symptômes. Donc, à ne produire rien de maîtrisable, il me semble que c'est l'idée précédente, c'est-à-dire que ce que produit le psychanalyste qui s'offre à l'enseignement ne relève pas d'un savoir maîtrisé, qui serait déjà là formaté. Celui qui se prête à l'enseignement de la psychanalyse ne peut s'ériger ni en tout du savoir, ni en maître du savoir. Posture abusive pour celui qui s'instituerait, s'érigerait en tout du savoir, et imposture pour l'autre, celui qui se ferait le maître du savoir. Donc, dans cette formule, il dit « malgré l'apparence ». À ne produire rien de maîtrisable malgré l'apparence, sinon au titre de symptômes. Ça signifie qu'il y aurait une apparence de maîtrise dans l'enseignement de la psychanalyse, mais la question qui m'est venue, c'est à qui se réfère-t-il ? Peut-être désigne-t-il ceux qui prenaient la posture infatuée du maître ? Ça, c'est une possibilité, mais je me suis aussi demandé s'il ne faisait pas référence en réalité à son propre enseignement, qui, compte tenu du texte, on peut facilement s'imaginer que pour certains, son enseignement prenait l'apparence d'une position de maîtrise du savoir analytique. Parce que dans cette allocution, s'adressant aux analystes de son école, il n'hésite pas à faire mention de l'embarras qui cause son enseignement. En effet, son enseignement à cette époque était contesté, il l'évoque. À quel titre l'était-il ? Peut-être qu'une position de maître apparente lui était reprochée. Là, je laisse la réponse à ceux qui ont connu cette époque. Et j'en viens à la fin de la phrase qui reste à commenter, donc qui dit que le discours analytique amène le psychanalyste à la position du psychanalysant, c'est-à-dire à ne produire rien de maîtrisable malgré l'apparence, sinon au titre de symptômes. Donc il reste à commenter cette fin de thèse, sinon au titre de symptômes. Donc je reformule la chose. Sinon, si ce que l'analyse produit est de l'ordre du savoir maîtrisable, alors c'est au titre de symptômes qu'il le fait. Alors ici, il faut s'entendre sur ce qu'il désigne par symptôme. Je ne crois pas qu'il s'agisse du symptôme qui soit propre à l'analyste, enfin, le symptôme propre à l'analyste, comme parfois on peut le lire. Pour m'orienter, je m'inspirerai volontiers du sens qu'il donne au terme de symptôme, qu'il va donner en tout cas plus tard dans son texte à troisième, où il va définir le symptôme comme étant le réel qui se met en croix pour empêcher que les choses marchent de façon satisfaisante, alors en particulier pour le discours du maître. Sauf qu'ici, dans ce, dans ce, dans cette acception du symptôme, le symptôme désignerait ce qui contrevient au discours analytique. En effet, si l'enseignant fait passer le savoir produit sur la psychanalyse au registre du savoir maîtrisable, il ne se situe plus en place de S barré. Ou soit il s'inscrit soit dans le discours du maître, ou dans le discours universitaire. Dans un cas comme dans l'autre, cette position vient faire obstacle au discours analytique. Obstacle alors à prendre comme symptôme de ce qui ne fonctionne pas pour que cet enseignement relève du discours analytique et donc produise un savoir nouveau. À suivre cette direction, on comprend mieux, en tout cas pour ma part, cette assertion qui pose que l'enseignement pourrait être fait pour faire barrière au savoir. Lacan l'avance à deux reprises et il souligne aussi l'antagonisme qu'il pourrait avoir, qu'il y a entre enseignement et savoir. Symptôme pourrait être pris aussi au sens de ce qui dysfonctionnait dans son école, qui, je le rappelle, il a fini par la dissoudre 10 ans plus tard. Dans sa lettre de dissolution de son école, il justifie cette dissolution par la perte des objectifs de sa fondation, à savoir le maintien d'une critique assidue des déviations et compromissions, je le cite, qui amortissent le progrès de la psychanalyse et en dégrade son emploi. Le symptôme pris dans ce sens, de ce qui dysfonctionne, rejoindrait ce qu'il diagnostique comme symptôme, c'est son terme, à propos de l'IPA, toujours dans cette lettre de dissolution, quand, dit-il, l'institution l'emporte sur le discours, c'est-à-dire effet de groupe consolidé aux dépens du discours attendu de l'expérience analytique. C'est-à-dire que c'est la préférence donnée aux standards de la pratique pour maintenir l'unité du groupe qui se fait au détriment de la production d'un savoir et donc du discours analytique. Et pour conclure, je ferai un très bref rappel d'histoire pour dire que notre école fut fondée sur le refus de cette position de maîtrise du savoir analytique par un seul. Je vous remercie.